On va continuer plutôt notre série sur Jésus ce soir et j'aimerais avec vous lire un texte, deux textes d'introduction dans Jean chapitre 6. À partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous passons au chapitre 7. À partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine. » Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Amen. Ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette parole des huissiers qui sont venus au départ pour se saisir de Jésus, envoyé par les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Ils ont dit au verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans ces deux passages que nous avons lus, il a été question de la parole qui sort de la bouche de notre Seigneur, ces paroles qui sont esprit et vie, ces paroles qui touchent au plus profond de nos cœurs, que nous pouvons recevoir ou rejeter. D'ailleurs, on a vu que les réactions face à l'écoute de cette parole peuvent être diverses. Certains ont dit « mais cette parole est dure », d'autres ont été touchés par cette parole. Certains, au verset 40, qui ont entendu les paroles de Jésus, ont dit « celui-ci est vraiment le prophète », etc. Et on voit que les pharisiens, quant à eux, étaient durs d'entendement. Ils ne voulaient pas recevoir les paroles de Jésus. Non pas, bien sûr, tous les pharisiens d'une manière générale, puisque l'on sait que quelques-uns se sont convertis. Au verset 46, donc, les huissiers ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme d'État, et il y en a qui savent bien parler, aucun homme religieux, et il y a dans le domaine des religieux, quelle que soit la religion, de grands orateurs qui savent parler aux foules. Aucun philosophe, aucun homme politique, et dans le domaine politique aussi, il y a des grands orateurs, n'a parlé comme Jésus et ne parle encore aujourd'hui comme Jésus. Nous avons l'habitude, de nos jours encore, de ces grands orateurs qui sont très médiatisés, qui savent séduire les foules, qui savent enthousiasmer des foules. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Entre nous, les huissiers ne sont pas des hommes à se laisser séduire par de belles paroles. Quand ils sont mandatés pour faire quelque chose, ils y vont et on a beau essayer de parlementer avec un huissier, il n'y a rien à faire. Lui, il vient faire son travail, il vient se saisir peut-être des biens, il est mandaté pour cela. Là, ils ont été mandatés par les principaux sacrificateurs pour saisir Jésus et l'amener Jésus. Ils ont entendu ces paroles, notamment à partir de ce verset 37 où il est dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et bien sûr, il parlait de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà les paroles qu'ils ont entendues de la part de Jésus. Et à l'écoute de ces paroles, ils ont été tellement touchés, subjugués par ces paroles, touchés profondément, qu'ils ont dit « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Aussi, la réaction des pharisiens, c'est « Vous aussi, vous avez été séduits. » Ces huissiers étaient des hommes instruits dans leur domaine, bien sûr, mais instruits d'une manière générale, instruits dans la loi de Moïse. Et on voit d'ailleurs le mépris de ces pharisiens par rapport au peuple. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Qu'en savaient-ils d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas la loi ? Jamais homme n'a parlé comme cet homme, et pour cause. Il y a quelque chose de différent dans la parole de Jésus. Il est la parole, n'oublions pas, il est la parole qui est faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes autres choses ont été faites par elle, par cette parole, et toutes choses subsistent par elle. Et cette parole, elle est pleine de grâce et de vérité pour chacun d'entre nous. Elle est au commencement de toutes choses. Il nous est dit encore dans l'Épître aux Hébreux que Dieu a parlé autrefois de différentes manières par les prophètes, mais maintenant, aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils, il est la parole. C'est donc normal que jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole de Jésus est différente dans son objet, dans sa manière de parler. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 3, verset 31, Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà le témoignage que Jean-Baptiste donne au sujet de Jésus. Lui, Jean-Baptiste, savait qu'il était de la terre, lui en tant que Jean-Baptiste. Et il dira, mais celui qui est de la terre, il parle comme étant de la terre, mais il parle de Jésus, celui qui vient du ciel. Là, il parle de Jésus, est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'est dramatique. Jésus nous enseigne les choses qui sont du ciel. Pour autant, il emploie un langage de la terre pour nous enseigner sur le ciel, des choses spirituelles. Il enseignait par des paraboles, elles sont nombreuses dans le Nouveau Testament, ces paraboles. Il enseignait par des paraboles des événements de la vie que tout le monde pouvait comprendre, des choses de la vie courante, pour nous enseigner des choses d'en haut, des choses spirituelles d'une grande profondeur. Ce qu'il avait entendu du Père, il nous l'a communiqué par sa parole. Amen. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, ces paroles sont esprit et vie. Alors c'est vrai que les disciples de Jésus n'avaient pas compris parce que quand Jésus a parlé de certaines choses, ils ont dit « mais cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» De quoi parlait Jésus à ce moment-là? Il parlait de sa chair qui est vraiment une nourriture, de son sang qui est vraiment un breuvage. Alors là, ça a dépassé l'entendement des disciples. Mais les paroles que je vous ai dites, leur dira-t-il, sont esprit et elles sont vie. Jésus employait des mots simples. Mais on voit que même si Jésus a employé des mots simples, des paraboles très simples, paraboles de semences et de livrées, par exemple, il n'y a rien de compliqué. Mais on voit que ces hommes instruits ne comprenaient pas ces choses-là. Et Jésus s'est même écrié à un moment donné, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce siècle et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Merci Seigneur. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et personne encore aujourd'hui ne parle comme Jésus, avec une telle onction de Jésus, comme nous l'avons lu dans ce passage. Il est dit que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. La pleine onction du Saint-Esprit est sur lui. Élisée avait demandé une double portion. Il a eu la double portion. Mais sur Jésus, il n'y a pas de double portion ou de triple portion. Il y a la plénitude du Saint-Esprit, tout simplement. Il n'a pas reçu l'esprit avec mesure, une partie, non. Tout l'Esprit est avec lui, tout l'Esprit de Dieu est avec lui. Et sa parole est remplie d'onction, elle est pleine d'onction, c'est pour cela que sa parole produit quelque chose dans nos cœurs et qu'il nous faut aussi, nous, avoir cette révélation par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, donne-nous de la comprendre par ton Esprit. Différent aussi dans sa manière de parler. Lisons par exemple dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et écoutons bien le verset 29. « Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Et pourtant les scribes, ils savaient parler, hein. Les scribes enseignaient la loi au peuple. Ils savaient parler. Mais là, les foules ont été frappées par la doctrine du Seigneur. On pourrait lire ces discours dont il est question, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, de quoi il retourne. Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Les scribes enseignaient... La loi de Moïse, il régissait la vie du peuple par des discours légalistes. Faites ceci, faites cela, faites pas cela, etc., etc. Leur discours imposait aux hommes des fardeaux. Ils imposaient au peuple des fardeaux. Jésus leur dira, vous imposez au peuple des fardeaux. Et eux-mêmes, eux-mêmes ne les portaient pas, eux-mêmes. Parce que c'est impossible. Et là, il l'imposait avec une certaine autorité. Mais quand il est question de l'autorité de Jésus, c'est totalement différent. Parce que Jésus n'a pas crié. Il n'a pas tapé du poing sur la table pour se faire obéir. Nous ne voyons pas Jésus faire cela. Mais il enseignait comme ayant autorité, sans crier. Pourtant, sa parole, quand elle était reçue avec foi, elle produisait quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes, nous aussi, témoins de cela dans nos propres vies, dans nos propres cœurs. La parole de Jésus a une autorité, j'allais dire, tellement immense, mais tellement simple en même temps. Elle produit quelque chose dans les cœurs. Sa parole libère les âmes. Sa parole guérit. Sa parole fortifie, elle encourage, elle convainc, elle corrige. Sa parole a autorité. Lisons encore un autre texte dans Luc, chapitre 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Quelle est cette parole ? Voilà ce qui se posait. Pourquoi ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Jésus vient de chasser un démon. Et il a dit au verset 35, « Tais-toi et sors de cet homme. » Quelle est donc cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il faut bien savoir que dans le judaïsme à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y avait des exorcistes qui chassaient les démons. On le voit, il y en est question dans les Actes des Apôtres. Ils avaient des exorcistes et... Mais là, il y a eu une différence notoire. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Il sort. Vous voyez, l'autorité de la parole du Seigneur, la puissance de la parole du Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme cela. Et même après, lorsque la belle-mère de Pierre a été malade, il a menacé la fièvre et la fièvre, elle est partie tout simplement. Amen. Ô Jésus, nous avons besoin de ta parole encore aujourd'hui. Trois mots ont suffi, pas un long discours. Hein. Trois mots ont suffi pour calmer la tempête. Vous pourrez lire Marc chapitre 4 à partir du verset 37. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Trois mots seulement, silence, tais-toi. Les disciples étaient complètement angoissés, stressés, apeurés par cette tempête, violente tempête. Et lui, il était là, sur le coussin, il dormait, ils l'ont réveillé. Silence, tais-toi. La réaction des disciples à ce moment-là, ils se sont dit, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? On voit encore que là, les disciples n'avaient pas encore bien saisi qui était Jésus, hein, puisqu'ils ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Il est le Créateur, tout simplement, donc il a autorité sur sa création. Et sa création lui obéit, silence, tais-toi. Trois mots ont suffi simplement pour calmer la tempête. Ah Seigneur, des fois j'ai des tempêtes dans mon cœur. Hein. Trois mots, Seigneur. Pour apaiser mon cœur. Alléluia. Trois mots, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui ramène le calme, qui ramène la paix. Et pour avoir la paix, il faut une autorité, l'autorité de la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Deux mots ont suffi pour ressusciter un mort, Lazare. Jésus a dit simplement deux mots. Lazare, sort. Oui, l'autorité même sur la mort. Ces paroles sont esprit et vie. Elles donnent la vie, elles communiquent la vie. Nos paroles, nous, on ne peut pas faire ça. Essayons de calmer une tempête avec trois mots, essayons de ressusciter un mort avec deux mots, sauf si c'est conduit par le Saint-Esprit, d'accord. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et là, on voit vraiment la différence qu'il y a entre ce qui se faisait, ce qui se fait encore aujourd'hui, et la parole du Seigneur qui a une pleine autorité, qui est totalement différente. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lazare sort, le mort est sorti, ressuscité. J'aimerais peut-être lire encore un autre texte dans Matthieu chapitre 8. Oui, Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, « Va, il va. » À l'autre, « Viens, et il vient. » Et à mon serviteur fait cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. La foi de cet homme, c'est même pas un juif, Jésus le dira, même en Israël. C'était un centenier, un officier romain, voilà qui était cet homme. Mais bien sûr qu'il avait entendu parler de Jésus. Lui aussi avait remarqué que la parole de Jésus était totalement différente. Nous sommes à Capernaum. Il faut bien quand même se restituer dans le contexte. Or, la particularité de Capernaum, c'est là où Jésus a fait le plus de miracles. Des miracles extraordinaires en grand nombre. Donc cet homme a su ce qui se passait à Capernaum. Et il a dit cette chose, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors là, il prend une image qu'il vit lui-même, parce que c'est un officier romain, donc il a lui-même des supérieurs, et quand ses supérieurs lui disent de faire quelque chose, ben, il le fait, hein, c'est la règle dans l'armée. Et lui aussi, il a des soldats sous ses ordres, donc quand il dit à l'un « va », il lui suffit qu'un mot, hein. Donc dans l'armée, la parole a une autorité. Il y a une question d'autorité de la parole. Et c'est ça qui met en avant. Là, Jésus, face à l'écoute de ça, verset 10, après l'avoir entendu, il a été dans l'étonnement. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et cet homme avait la foi en l'autorité de la parole de Jésus. Un mot seulement. Et mon serviteur est guéri. Alléluia. Puissions-nous avoir la même foi. Seigneur, dis un mot à mes problèmes. Hein. Dis un mot à mes épreuves. Dis un mot à ma maladie. Ou à la maladie de mon bien-aimé, de cette personne pour qui je prie. Un seul mot de ta part, Seigneur, suffit. Un seul mot. Regarde, la parole, l'autorité, l'autorité de la parole du Seigneur. Que la lumière soit. Et tout s'est mis en route, tout s'est exécuté, et la lumière fut tout simplement. Alléluia, parce que quand Dieu dit quelque chose, quand il commande que quelque chose soit, elle est à ce moment-là, elle existe à ce moment-là, elle est créée à ce moment-là. Un seul mot de ta part, dis un seul mot, un mot seulement, un mot suffit. Merci Seigneur. Quand on regarde Jésus à la croix, dans les évangiles, Jésus n'a pas fait de longs discours sur la croix. Ses paroles furent très brèves. Quelques rares paroles qu'il adresse aux brigands repentants, par exemple. Puis, juste avant de rendre l'esprit, il s'est écrié trois mots seulement. Tout est accompli. Mais ces trois mots-là, quelle portée extraordinaire, qui, encore aujourd'hui, nourrissent notre foi. Car Jésus a tout accompli. Il n'y a donc plus besoin de s'agiter dans tous les sens pour obtenir le salut ou quoi que ce soit. Il a tout accompli. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nicodème était venu vers Jésus. Nicodème était un homme très instruit, versé dans la loi, mais il ne comprenait pas les paroles de Jésus. Quand Jésus lui a parlé de nouvelle naissance, il n'a pas compris les paroles de Jésus. Il se demandait, mais est-ce qu'un homme peut revenir dans le sein de sa mère et renaître, etc., etc. Jésus lui dira, mais tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Alors que les pharisiens méprisaient le peuple parce qu'ils ne connaissaient pas la loi de Moïse, mais ce peuple-là comprenait la parole. Nicodème, lui, cet homme instruit, ne comprenait pas la parole. Mais on voit, quand on lit les rares fois où Nicodème intervient dans les évangiles, on voit une progression dans la foi de Nicodème jusqu'au moment où il sera là, la crucifixion de Nicodème. Il va être là. Il va se révéler à la croix, Nicodème. Il va se révéler à la croix. Il y a quelque chose, en fin de compte, c'est vrai que cet homme n'a pas compris sur le moment, mais au fur et à mesure des semaines, des mois passant, il y a quelque chose qui s'est opéré dans le cœur de Nicodème jusqu'au point de se révéler à la croix lorsqu'il a fallu récupérer le corps. Donc cet homme qui n'avait pas compris, j'allais dire, si on peut parler comme ça, le concept de la nouvelle naissance, va lui-même, à ce moment-là, passer par cette nouvelle naissance. Parce qu'il est celui qui nous amène à cheminer. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans sa parole, mais nous savons que ça, quand même, ça fait son chemin dans notre cœur et le Saint-Esprit nous éclaire pour que nous puissions saisir cette parole et qu'elle puisse faire toute son œuvre dans nos cœurs. Cette parole qui est vivante et efficace. Sa parole dans nos cœurs produit beaucoup. Nous l'avons déjà vu tellement de fois dans notre vie. Et nous voulons la recevoir avec foi, cette parole, sachant de qui elle vient. Elle vient du Fils de Dieu, de Jésus, celui dont on a parlé toutes ces semaines. Cette parole, nous voulons la recevoir avec foi. Si elle n'a pas produit son effet, on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, dans ceux qui l'entendirent autrefois, c'est qu'ils ne l'ont pas reçue avec foi. C'est comme la lumière qui est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Cette parole, elle est là, mais certains ne la reçoivent pas. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Parce que jamais homme n'a parlé comme toi. Nous avons soif de recevoir la parole. Nous avons soif de la présence de Jésus. Nous avons soif du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, jamais homme n'a parlé comme toi. Nous voulons nous laisser imprégner par ta parole. Que ton nom soit béni. Parle encore. Le Seigneur, il parle encore aujourd'hui. Il est vivant pour l'éternité. Et puisqu'il est vivant pour l'éternité, il parle encore aujourd'hui. Donc il faut s'attendre à de belles choses. Le Seigneur n'a pas fini de parler. Il est l'alpha et l'oméga. Et s'il n'a pas fini de parler, nous savons l'autorité, la portée, l'envergure, la puissance de la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Que son nom soit glorifié. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Et comme Pierre, nous pouvons déclarer, tu as les paroles de la vie éternelle. Merci parce que ta parole a produit la vie dans nos cœurs. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Ta parole a pleinement autorité dans nos cœurs, dans nos vies. Ta parole, Seigneur, produit quelque chose d'extraordinaire. Oh, béni sois-tu, elle est esprit et vie, Seigneur. Et nous voulons la recevoir comme telle et nous te remercions pour tout cela. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, que ta parole soit en honneur au milieu de nous, Seigneur. Béni sois-tu pour toute parole qui sort de ta bouche, qui nourrit notre âme, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.